Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Alors bonjour, j'en profite pour saluer aussi Arthur de Vatrigan qui est là comme à chaque fois dans cette émission. Une émission un peu particulière Mathieu aujourd'hui. Vous avez choisi de donner la parole à deux invités, expliquez-nous pourquoi.
Ah bah, de temps en temps, il est nécessaire de prendre un pas de côté par rapport à l'actualité pour être capable de la regarder, surtout en fait sur les questions de fond, de temps en temps, surtout lorsque l'actualité est frénétique, s'en détacher un peu.
Et comme c'est en ce moment, oui.
Exactement, donc dans la très grande frénésie, prenons un pas de côté, faisons un pas de côté. Et ce pourquoi mon premier invité ce soir, que j'ai le plaisir de recevoir, c'est David Engels. David Engels, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation.
Alors, j'ai eu le plaisir, il y a de cela plusieurs années, de lire un de vos ouvrages, c'était Le Déclin. Le Déclin, où, qui avait été très bien accueilli, je m'en souviens, sur France Culture, vous aviez proposé une discussion fort intéressante autour du thème suivant, c'est-à-dire comparer la crise actuelle de l'Europe à celle de la République romaine, si je ne me trompe pas, et vous cherchez à voir de quelle manière l'histoire pouvait nous informer sur le présent, nous éclairer sur le présent. Et depuis, vous avez mené une réflexion sur le devenir de la civilisation européenne, mais une réflexion sur le devenir politique de la civilisation européenne en sortant, en quelque sorte, des alternatives généralement convenues. D'un côté, une gauche qui est européiste, mais détachée de l'identité européenne. De l'autre côté, une droite attachée à l'identité, mais qui l'enferme, à tort ou à raison, dans la souveraineté nationale. Et dans votre plus récent livre, « Défendre l'Europe », vous nous dites « Il faut poser ce débat autrement ». Alors, je vous poserai la question premièrement ici. Comment se pose aujourd'hui la question européenne, politiquement? De quelle manière se présente-t-elle au peuple d'Europe?
Oui, de mon point de vue, cette question-là, elle se pose d'une manière très, très, très erronée, comme vous le disiez aussi. On a une gauche libérale politique qui se fait défenseur de l'idée européenne, mais qui voit l'Europe plutôt comme un genre d'État mondial accidentellement situé dans le continent européen. C'est une gauche libérale qui est honteuse de son passé, qui est honteuse de son identité, qui est plutôt pour le libre-échange, pour le multiculturalisme, la mondialisation, une certaine vision de l'athéisme ou de la laïcité. Et puis on a une droite évidemment qui, elle, est un peu mal à l'aise par rapport à cette identité européenne qui a été capturée et piratée par la gauche, si on veut, et qui ne voit dans la situation actuelle finalement que le retour à l'État-nation, à un certain souverainisme, comme la possibilité de s'en sortir. De mon point de vue, cette attitude de la droite, pas seulement de la droite d'ailleurs, il y a aussi des formes d'extrême gauche finalement qui reviennent aussi au souverainisme, mais pour faire facile de la droite, est de mon point de vue erroné, car tout d'abord, la situation aujourd'hui n'est plus comparable à celle du 19e siècle où quelques grands États-nations pouvaient se permettre d'un point de vue militaire, technologique, démographique, d'assurer une certaine, une certaine autonomie impériale et même dominer une grande partie du monde. Aujourd'hui, l'Europe elle est fracturée à travers une trentaine de petits États-nations qui sont tous quelque part confrontés aux mêmes facteurs de crise. On a une démographie qui est ahurissante, on a une immigration de masse, on a le phénomène de déchristianisation, on a la désindustrialisation, on a la polarisation sociale, etc. Et donc rediviser le continent en une trentaine de petites entités me semble compréhensible d'un point de vue identitaire immédiat, mais être une mauvaise solution au long terme, car ce qui est très sûr pour moi, c'est qu'un retour à une trentaine d'États-nations invitera finalement les Chinois à dominer l'un, les États-Unis à dominer les autres, les Russes à dominer un troisième, le Qatar à intervenir aussi, ou Dieu sait qui, et donc finalement de devenir un genre de champ de bataille finalement des intérêts impériaux des autres grandes puissances du monde multilatéral. Et donc face à ça, je propose plutôt une vision, une troisième vision, si on veut, c'est-à-dire une Europe identitaire forte qui serait très présente à l'extérieur, qui défendrait ses frontières, qui assurerait certaines cohésions, qui assurerait les intérêts de l'Europe aussi dans le monde, tout en étant très subsidiaire vers l'intérieur. Donc en fait, l'inverse de ce qu'on a actuellement avec une Europe très faible vers l'extérieur et de plus en plus autoritaire vers l'intérieur.
Alors, votre position est présentée, mais faisons un pas de côté encore une fois. J'ai l'impression, en vous lisant, que vous nous dites, nous sommes aujourd'hui, vous prenez au sérieux l'hypothèse d'Huntington, ou peut-être d'autres hypothèses, mais vous prenez au sérieux l'hypothèse d'Huntington en disant, nous entrons dans le monde des civilisations. Et les Américains se sont presque constitués aujourd'hui de plus en plus à la manière d'une civilisation à part entière. Le lien avec l'Europe s'est distendu. On le voit, différents blocs émergent. Et l'Europe est le dernier, on va dire la dernière civilisation à se prendre pour la civilisation singulière, donc à se devoir, être universaliste absolument, mondialiste absolument, désincarné absolument. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe manque de conscience civilisationnelle aujourd'hui ?
Absolument, absolument. Et c'est inscrit évidemment dans les gènes de la modernité, et c'est vers ça que ça devait tendre. Mais nous devons désormais le dépasser. Et d'ailleurs, vous avez mentionné aussi le nom de Huntington. Je suis évidemment aussi fort impressionné, fort influencé par Oswald Spengler, un penseur de l'époque de Weimar, qui avait justement essayé aussi de montrer comment toutes les grandes civilisations étaient non seulement mortelles, mais suivaient des parcours relativement parallèle. Et pour Spengler, tout comme pour Toynbee, par exemple, aussi, qui était un de ses successeurs, c'est relativement clair que vers la fin d'une grande civilisation, celle-ci doit se constituer en état-civilisation, en un genre de grande unification impériale. Et finalement, c'est ce qui s'est passé avec la Chine, c'est ce qui s'est passé avec l'Inde, c'est ce qui s'est passé avec toutes les autres grandes civilisations dans l'histoire, notamment l'Empire romain, comme stade final de la civilisation gréco-romaine. On pourrait encore y rajouter beaucoup d'autres. Et finalement, c'est ce qui me semble être le pas relativement logique aussi pour le futur européen, à la fois d'un point de vue civilisationnel, mais aussi politique. Sinon, on risque l'africanisation de l'Europe, qui va être prise en tenaille par une Chine de plus en plus impériale, par une Inde qui est en train aussi de devenir de plus en plus un acteur important dans le monde, par le Brésil, par les États-Unis. Il y a juste cette Europe-là qui est d'un côté le moteur économique, toujours en tout cas, du monde, mais qui d'un autre côté, politiquement, est un nain.
Alors nous reviendrons sur la question des nations dans un instant, mais Arthur de Vatrigan, la parole est à vous.
Vous parliez des morts de civilisation, vous avez étudié aussi le déclin de la République romaine. Quels sont les points comparables avec le déclin que vous analysez de l'Europe et quelles sont les différences ?
Ben, la différence est évidemment assez facile à dire. Forcément, au niveau technologique, on a une grande différence. C'est relativement clair. C'est l'une des différences principales, je dirais. Moi, ce qui me saute surtout dans les yeux, c'est les similitudes. On a un déclin démographique assez remarquable. On a une immigration de masse paisible. Je ne parle pas des migrations des peuples de l'Antiquité tardive, mais déjà au 2e, 1er siècle avant notre ère, on a une immigration de masse assez importante qui vient de l'est de la Méditerranée dans les grandes villes. On a le déclin de la religion romaine traditionnelle. On a une certaine mondialisation sous forme de romanisation ou d'hellénisation. On a déjà à cette époque-là ce que moi j'appelle le socialisme des milliardaires, où on a cette drôle de situation. On a quelques milliardaires extrêmement riches, quelques oligarques qui dominent finalement notre système économique d'un côté, avec des masses de plus en plus appauvries qui sont finalement pacifiées au moyen de panem et circenses, de pain et des jeux. On a un certain hédonisme, on a des guerres asymétriques, on a du terrorisme, on a le populisme qui devient de plus en plus marqué aussi vers la fin de la République romaine. Et tout cela mène la République romaine d'une manière presque inévitable dans la guerre civile. Et moi, je crains, quand je vois l'évolution maintenant, non seulement en France, qu'on est à deux pas d'une évolution relativement semblable.
Alors, vous nous dites que l'Europe peut et doit se constituer. Elle peut se construire presque en figure en empire, entre guillemets. Mais l'Europe, il y a des divisions assez fondamentales. On le voit, je donne un exemple qui touche à l'actualité la plus immédiate, le Mercosur. On a d'un côté l'Allemagne qui est favorable au Mercosur en disant c'est une opportunité pour nous. De l'autre côté, on voit la France qui n'y est pas particulièrement favorable. De la même manière, on pourrait dire, par rapport à la question russe, on a la Pologne qui est un pays qui, à cause de son histoire, où les Baltes ont une conscience vive du danger russe, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté, en France, il y a encore le rêve, chez certains, pas chez tous, mais le rêve d'une forme d'apaisement et de retrouver une forme d'équilibre, que la Russie aurait vocation tôt ou tard à réintégrer la communauté de civilisation européenne. On pourrait multiplier les exemples ainsi dans la gestion de l'immigration. Les pays d'Europe orientale n'ont pas du tout la même lecture de l'immigration que les pays d'Europe occidentale ou les pays d'Europe du Sud. Donc vous nous présentez l'Europe, j'ai l'impression qu'on est davantage devant, pour l'instant, devant une idée plutôt qu'une réalité politique à la veille d'émerger.
Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cela. L'Europe, actuellement, elle est très divisée. C'est justement ça le problème, qui rappelle d'ailleurs en partie aussi les discussions presque interminables de la République romaine tardive, où là aussi, on n'avait aucune idée vers où on allait aller et comment on allait même concevoir cet empire. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a des intérêts nationaux et politiques extrêmement divergents, mais en même
Divergents et même irréconciliables, quelquefois.
Pour le moment, mais bon, nous vivons dans une certaine dynamique et nous constatons pour le moment, en tout cas de mon point de vue, de plus en plus un grand alignement. On voit de plus en plus une conscience de la part des nations que nous sommes tous finalement dans le même problème, que nous partageons tous ces mêmes problèmes de crise démographique, d'immigration de masse, d'accès très 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 difficile à des ressources stratégiques, etc. Surtout, je crois, du côté de la droite politique, il y a lentement un certain alignement, me semble-t-il, sur le fait que nous vivons en gros les mêmes problèmes, mais le chemin d'abord est encore très lointain, et puis, comme dans la République romaine, tout comme d'ailleurs dans d'autres phases semblables d'autres grandes civilisations, cette transition, cette transformation vers un état civilisation ne se fera probablement pas d'une manière paisible, démocratique, organique, mais risque de se passer par une voie disruptive. Et c'est justement face à cette disruption qui me semble s'approcher à grands pas de plus en plus, surtout en France, que je tente de poser déjà maintenant les jalons pour montrer essentiellement évidemment à un public plutôt conservateur, mais aussi de gauche, de dire voilà la seule solution. Il faut un genre de réconciliation entre l'idée européenne et quelque part une certaine fierté identitaire, culturelle, civilisationnelle, comme étant la seule voie qui pourrait nous sortir des années décisives, pour prendre une formule très, très chère aussi à Spengler, qui s'approche. Mais c'est sûr que ce n'est pas pour demain, et c'est sûr que ce n'est pas actuellement de la configuration actuelle des instances européennes qu'un tel telle transition vers une Europe civilisationnelle, Europe espérialiste, comme je l'appelle, peut arriver. C'est plutôt un genre d'idée régulatrice, si on veut.
Arthur de Vatrigan.
L'un des concepts centraux dans votre réflexion, c'est la transcendance, et vous expliquez, parce qu'on a abandonné la transcendance, nous sommes en déclin. Et vous rappelez également que l'une des racines essentielles de l'Europe, c'est le christianisme. Quel rôle, justement, pour la transcendance, pour le christianisme, dans le renouveau que vous appelez en Europe, sachant qu'on est quand même dans le continent peut-être le plus désacralisé, le plus détranscendant.
Je crois qu'on est peut-être là en compétition avec la Chine, qui est pas mal non plus de ce point de vue-là, qui a perdu en grande partie ces dernières années son accès à la transcendance. Mais oui, oui, absolument. Je crois que les deux, d'ailleurs, sont inséparables. À partir du moment où une grande partie de la population réalisera que seule une certaine fierté civilisationnelle, culturelle, peut encore nous aider, bah, automatiquement, cela va de pair avec une réchristianisation. Je le vois très souvent, d'ailleurs, dans les conférences que je donne pour des jeunes gens, bah, notamment aussi quand je parle de mon livre « Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe », qui est une approche plutôt privée, intime, si on veut, de cette crise-là, qu'il y a beaucoup de jeunes qui, par patriotisme, arrive au christianisme, pas dans l'autre sens. Bon, évidemment, c'est un problème. Il y en a beaucoup pour qui le christianisme est quelque chose de relativement superficiel, de purement formel, rituel, qui accompagne un patriotisme qui, lui, est plus profond. Mais je crois que cette évolution est en train de faire son chemin. Et d'ailleurs, on le voit aussi en comparant les grandes civilisations, que toujours la formation d'un état civilisation, que ce soit l'Empire romain, l'Empire des Han en Chine, l'Empire des Gupta en Inde, que ce soit les Ramessides en Égypte, bref, toutes les grandes civilisations sont généralement accompagnées par une certaine restauration religieuse. Alors il faut être quand même réaliste, une rechristianisation vraiment profonde, spirituel, un genre de retour au Moyen-Âge avec sa véritable piété, ça me semble assez naïf. Je ne m'attends pas à cela.
D'autant que ce n'est pas vraiment le travail de l'État que de s'assurer de la conversion des consciences.
De toute manière. Mais ce phénomène, je crois, est plutôt un phénomène, malheureusement, pour les grandes foules en tout cas, assez superficiel. Et c'est sûr que ce n'est pas à l'État maintenant de convertir les gens de force, mais l'État peut soit faire tout ce qu'il peut, comme l'État français, pour fermer les portes de la transcendance, pour ridiculiser le christianisme, mettre en avant des idées beaucoup plus athéistes ou sécularistes, ou alors l'État peut tenter d'ouvrir les portes, comme le fait notamment la Hongrie, qui, elle, essaye d'assumer assez pleinement l'identité culturelle chrétienne de son État. Et à mon avis, c'est vers quelque chose de ce style-là qu'on pourrait aller.
Alors, vous nous parlez de l'Europe comme idée régulatrice, d'une Europe civilisation comme idée régulatrice, mais je vous ramène sur l'Europe telle qu'elle prend forme aujourd'hui, ce grand écart. Parce que certains diraient, à tout le moins, c'est mon impression, quand on parle de la Commission européenne aujourd'hui, quand on parle de la constitution de l'Europe telle qu'elle prend en forme aujourd'hui, c'est une Europe à certains égards impériale, c'est-à-dire avec un pouvoir qui prétend surplomber les nations, une bureaucratie qui surplombe elle aussi les différents corps politiques nationaux, une absence relative du sens des frontières, c'est généralement le fait des empires, la volonté de mater les provinces rebelles lorsqu'elles contestent le dogme européiste. Je me souviens de cette phrase de Mme von der Leyen à propos des élections italiennes, si ça tourne mal, nous avons les moyens de ramener l'Italie à l'ordre. De ce point de vue, l'Europe impériale que vous souhaitez, elle existe déjà, elle n'a pas le même contenu civilisationnel que vous souhaitez, mais l'Europe impériale a déjà pris forme et les nations sont déjà en très mauvaise situation en Europe aujourd'hui.
Absolument, et cela montre que toute la dynamique civilisationnelle actuelle va de toute manière aller dans ce sens-là, parce qu'on est déjà avec un pied dedans. Le problème, c'est que cette Europe, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle devrait faire et à mon avis de ce qu'elle va faire. Comme je l'avais dit aussi au début, cette Europe, elle est faible, elle est impotente vers l'extérieur, cette Europe, elle n'est pas présente.
Elle n'a pas de politique étrangère unifiée.
Elle n'a pas de politique étrangère unifiée, elle n'a pas d'armée, elle n'a aucune idée ce qu'elle veut faire sur les autres continents, elle n'a aucune idée comment elle veut assurer aussi notre accès à des ressources stratégiques, elle n'a aucune véritable politique en matière d'autarcie industrielle, donc elle est, comment dire, inexistante vers l'extérieur, elle est extrêmement autoritaire vers l'intérieur. Et justement, cette Europe que moi j'appellerais de mes voeux ferait exactement le contraire. Elle serait présente vers l'extérieur, elle aurait la force de protéger ses frontières, à la fois contre la migration, mais aussi très clairement contre des potentielles attaques. On voit bien que la guerre, elle revient bel et bien au XXIe siècle, mais qui serait en même temps subsidiaire vers l'intérieur. Alors, c'est évidemment une approche très, très, très différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'est d'abord l'approche institutionnelle, dont je parle aussi un peu dans mon livre, mais ce qui me semble encore plus important, d'abord, c'est l'approche identitaire. Car actuellement, je serais le dernier à vouloir donner une armée à Ursula von der Leyen, comprenons-nous très bien. C'est le dernier de mes souhaits. Je préfère encore de loin une Europe des nations à cette Europe vers laquelle des gens comme Ursula von der Leyen veulent mener notre continent. C'est quelque chose que j'aimerais bien dire très, très, très clairement. Mais en même temps, ce revirement identitaire me semble l'essentiel. Et là, actuellement, nous devons, donc, de mon point de vue, faire l'essentiel en tant que droite, en tant que conservateur, de nous reconnaître non seulement la beauté de nos nations, de nos régions, de leur richesse, mais aussi de remarquer qu'au final, durant ces 1000 années écoulées depuis, en gros, la réforme carolingienne, cette Europe, elle a toujours été très, très, très unicitaire. Elle a partagé pendant 1000 ans la même histoire, elle a partagé pendant 1000 ans les mêmes évolutions religieuses, en bien comme en mal, elle a partagé les mêmes aventures de croyance en le progrès, de désamour, finalement, de nouveau pour la modernité. Nous vivons cette même histoire et je crois que c'est important pour la droite des différents pays de se rendre compte de ce que disait déjà d'ailleurs Ortega y Gasset, c'est-à-dire qu'en gros 60% de ceux dont la plupart des gens croient que c'est typiquement national est en fait européen.
Arthur de Vatrigan.
Je pense qu'on prend un exemple très concret, vous dites qu'il faut des intérêts communs. On prend l'exemple de la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. La Pologne et l'Italie n'ont pas les mêmes intérêts, on voit dans leur positionnement. La Pologne, évidemment, de son point de vue géographique, a peur de se faire rouler dessus. L'Italie peut se dire on peut gagner un peu de temps et envisager autre chose, puisque d'autres pays seront roulés dessus avant que ça arrive à nous. Donc comment c'est possible de trouver un intérêt commun avec les frontières extérieures?
Je crois que la politique italienne, telle que vous la résumez, là, elle est fort simpliste. Je crois que personne en Italie dirait que voilà, c'est égal si la Pologne se fait conquérir ou se fait bombarder par la Russie. Je crois qu'on est plus
à... qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts immédiats.
Bah, ça me semble quand même être un peu la même chose. J'ai l'impression que durant ces dernières années, on a quand même compris en Europe qu'on était dans le même bateau, on a quand même compris qu'on était une communauté de destin. Bon, c'est sûr, malheureusement, l'Union européenne a fait tout ce qu'elle a pu pour écraser dans l'œuf cette conscience d'un destin commun, vu que c'est justement l'Union européenne qui a essayé de définir l'Europe comme un ensemble purement basé sur les droits de l'homme et mondialiste, etc. Donc l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, est, pour ainsi dire, le pire ennemi de cette identité européenne civilisationnelle dont je parle. Mais c'est une réalité que les différents États-nations ont des intérêts qui peuvent être divergents, mais une fois de plus, je les vois surtout ces dernières années converger. Je les vois converger de plus en plus économiquement. Certes, on a des déséquilibres un peu partout, mais c'est quand même un déséquilibre qui forme un système qui se tient. Le système européen actuel, il est asymétrique, surtout avec le rôle de l'Allemagne, forcément, mais c'est un système qui est peut-être injuste à certains niveaux, mais qui est de plus en plus fermé. L'Italie, elle est liée plus au reste de l'Europe qu'elle est liée économiquement à la Tunisie ou à l'Égypte, par exemple. La Pologne, elle est plus liée à l'Allemagne qu'à la Russie. L'Espagne, elle est plus liée à la France qu'elle est au Maroc, économiquement. Et donc, je crois que cela va converger de plus en plus. Et d'ailleurs, aussi, une fois de plus, je crains qu'une telle transition, même si je désirais le contraire, se fasse surtout sur fond d'une crise politique relativement grave.
Alors, il nous reste 2 minutes et je vous impose une question biographique, vous me le pardonnerez. Vous êtes belge, mais vous êtes de la communauté germanophone de Belgique, ce qui est quand même la minorité dans la minorité. Enfin, la minorité dans l'État non-national, dans l'État post-national belge, appelons ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'une conscience européenne comme la vôtre peut émerger dans un contexte qui est le vôtre, c'est-à-dire une minorité qui n'est pas construite en État-nation comme c'est le cas ailleurs? Et de ce point de vue, est-ce que cette conscience européenne, vous n'y êtes pas davantage porté par l'absence d'un cadre national fort qui serait le vôtre, alors qu'un Français, qu'un Italien, qu'un Hongrois qui dispose d'un État-nation fort auquel ils peuvent s'identifier spontanément, pour eux, l'identité européenne ou l'idée européenne, c'est beaucoup plus lointain?
Je dirais deux choses. D'abord, oui, en effet, d'ailleurs j'en parle aussi, je crois, même dans mon livre, que cette identité très particulière fait en sorte que pour moi, mon État national, c'est la civilisation européenne. Moi, je suis, pour ainsi dire, nationaliste européen, je suis souverainiste européen, si on voudrait trouver un terme, et mon passé culturel y est certainement pour quelque chose. Mais je dirais en même temps que les personnes aveugles ont souvent une meilleure ouïe que d'autres et entendent des choses que d'autres entendent peut-être un peu moins. Donc, de ce point de vue-là, cette origine culturelle spécifique me permet peut-être aussi de distinguer certaines choses plus clairement que d'autres personnes qui seraient beaucoup plus, je dirais, ancrées dans leur État-nation. Et puis, je crois qu'on est face aussi à un immense problème de culture générale. Au 19e siècle, personne, alors que là, on avait, pour ainsi dire, le point culminant du nationalisme, personne n'aurait probablement dit qu'il n'y a pas de civilisation européenne. Même quand les Français haïssaient les Prussiens et que les Anglais haïssaient Dieu sait qui, on était tous conscients qu'on appartenait à une même civilisation. Paradoxalement, ce n'est que depuis qu'on a l'Union européenne qui a viré de plus en plus vers le mondialisme, qu'on a un retour vers les identités nationales. Donc je crois que c'est aussi un problème d'abord de vision et finalement aussi d'éducation. Et là-dessus, on pourrait faire énormément de choses pour changer très rapidement cette conscience vers une concentration sur le nationalisme, vers une sur finalement l'identité civilisationnelle européenne.
Merci beaucoup David Engels en tout cas. Et on va marquer une courte pause. Au retour de la pub, on parlera de théâtre et de pouvoir, notamment leur relation au XVIIe siècle. Alors restez bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de l'émission En face à Mathieu Bock-Côté avec un deuxième invité ce soir. On va parler théâtre et pouvoir, bien sûr.
Oui, théâtre, pouvoir, politique, culture avec Laurent Dandrieu. Laurent Dandrieu, bonsoir.
Bonsoir Mathieu Bock-Côté.
Alors, vous publiez Le roi et l'Arlequin, Louis XIV, Molière et le théâtre du pouvoir. C'est une nouvelle, si on a le souci de lire votre œuvre, eh bien, c'est une nouvelle étape dans une forme d'histoire culturelle du pouvoir que vous nous proposez, c'est-à-dire d'un livre à l'autre, une réflexion sur la manière dont la culture s'emboîte avec la cité. Comment l'une éclaire l'autre. Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur la figure de Louis XIV, vous revenez sur Molière, mais vous revenez sur sur les premières années d'un personnage qu'on a tendance à connaître dans sa gloire, et vous nous le présentez, surtout, mais pas seulement, dans ses premières années. Présentez-nous le personnage autrement qu'on ne le connaît normalement.
Oui, c'est les années très intéressantes parce que c'est celle où il façonne effectivement son personnage de roi, parce qu'il a une conception très théâtrale du pouvoir et le système de son pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un qui, contrairement à ce que l'on croit habituellement, n'est pas très sûr de lui. C'est un personnage un peu timide, qui n'est pas brillant à une époque où la répartie est très importante. Il est intelligent, il a une intelligence très profonde, mais il n'a pas ce brillant de la réplique. Il est considéré un peu comme par son entourage comme un baladin qui aime beaucoup danser et jouer de la guitare, mais pas quelqu'un de très sérieux. Et donc, quand il, après la mort de Mazarin, réunit ses ministres pour leur annoncer en quelque sorte qu'à partir de maintenant, l'État ce sera lui, même s'il n'a pas évidemment prononcé cette phrase, il a au contraire cette formule absolument étonnante. Il dit « la face du théâtre change », c'est-à-dire que vraiment, on voit à travers cette formule à quel point il considère le pouvoir comme un théâtre, non pas comme on le considérait aujourd'hui au XXIe siècle, comme un théâtre d'ombre où les politiques n'auraient que l'apparence d'un pouvoir qui en réalité se situerait ailleurs, mais comme un théâtre qui exprime par des symboles extrêmement puissants la réalité des choses. Et pour Louis XIV, il va y avoir deux manières d'exprimer son autorité. D'une part, dans son attitude personnelle, c'est cette attitude d'effrayante majesté, comme dira Saint-Simon, qu'il se compose en endossant très consciemment son rôle de roi. Et puis, il y a effectivement l'utilisation qu'il fait de la politique artistique et des spectacles pour manifester la magnificence et la majesté royale, et à travers cette politique de magnificence, eh bien, manifester une autorité et le retour d'une autorité royale qui était sortie très affaiblie de cette fronde qui l'avait tellement traumatisé quand il était enfant.
Alors, c'est Louis XIV d'un côté et de l'autre, Molière. Alors, comment la relation se noue-t-elle entre ces deux personnages? Parce que chacun est un monstre, une figure immense dans la culture française. Et pourtant, vous vous penchez sur leur rapport et finalement leur lecture commune de la situation presque de l'âme humaine.
Oui, et il y a en tout cas une réelle intimité et je pense une profonde communauté de vie. L'intimité de vue. L'intimité, elle se joue sur deux plans, sur l'art déjà, le fait que Molière a su se faire apprécier comme auteur et comme acteur de Louis XIV, qui disait de lui « cet homme ferait rire les pierres ». C'est une intimité fondée aussi sur la fonction de valet tapissier du roi, qu'occupait Molière à la cour, qui n'était pas du tout une fonction symbolique. C'était une charge très absorbante qu'il a exercée avec énormément d'assiduité, ce qui lui a permis de gagner la confiance du roi, son intimité, et de créer un lien très profond entre les deux hommes. Et la communauté de vue, elle est, je pense, sur une vision qui est très présente dans le théâtre de Molière, qui définit finalement un idéal d'honnête homme, qui est un idéal d'harmonie, qui est un idéal d'équilibre, qui est un idéal de mesure, de refus de toutes les sortes de fanatismes. Et je pense que cela résonnait profondément dans le cœur et dans l'esprit de Louis XIV et que ça lui est probablement apparu comme le meilleur rempart à cette anarchie, à ces désordres qui avaient donné naissance quelques décennies plus tôt à cette fronde qui lui justement avait fait tellement de mal au pays.
Arthur de Vatrigan.
Vous dites qu'aucun sujet du royaume ne connut aussi bien Molière, ses pièces, que Louis XIV. Et moi, j'ai même découvert, grâce à vous, que Louis XIV a joué avec Molière sur scène. Oui. C'est quand même quelque chose d'assez inouï, d'assez fascinant. Et donc déjà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a comment c'est matérialisé? Et ensuite, qu'est-ce qui a séduit d'un point de vue de l'œuvre, d'un point de vue de l'art, Louis XIV chez Molière?
Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas assez, effectivement, qui change complètement l'image qu'on peut avoir de Louis XIV, c'est la dimension de roi artiste. Artiste, pas seulement dans le sens mécène, mais dans le sens aussi qu'il pratiquait les arts. Et donc, c'était déjà un très bon musicien, un excellent guitariste, mais c'était surtout l'un des principaux danseurs de son temps. C'était vraiment quelqu'un qui était capable de se mesurer avec les meilleurs professionnels. Il a laissé d'ailleurs son nom à un pas de danse qui s'appelle l'entrechat royal, qui existe toujours. Et donc, il se produisait régulièrement en vedette, si j'ose dire, dans des ballets de cour, ou comédie-ballet, dans lesquelles Molière, effectivement, était également comédien. Et on a effectivement une scène, notamment, d'un de ces ballets où Molière joue le rôle de Sganarelle, et Sganarelle se fait dire la bonne aventure par des Égyptiennes, comme on disait à l'époque, qui sont en fait des gitanes. Et autour de lui, il y a des Égyptiens, donc des gitans qui dansent. Et l'un de ces Égyptiens, eh bien, c'est Louis XIV qui est sur scène en même temps que Molière. C'est effectivement assez inimaginable aujourd'hui quand on découvre ça dans les textes de l'époque. Il faut s'y reprendre relire la chose à plusieurs reprises pour y croire vraiment, tellement ça paraît effarant et tellement ça paraît loin de cette idée de solennité un peu marmoréenne qu'on a de Louis XIV.
Alors, je reviens sur ce que vous avez dit il y a un instant. Vous dites Louis XIV voit chez Molière une conception de l'être humain, de la culture, une conception du théâtre, du pouvoir, en quelque sorte, une culture civilisatrice, une culture qui a le sens de l'ordre, des proportions, qui n'est pas dans la démesure la plus folle, qui sait autrement dit civiliser la bête humaine. De ce point de vue, il y a une forme d'intuition assez forte chez Louis XIV, c'est-à-dire l'idée que la culture peut soit réveiller les passions, calmer les passions, orienter les passions. Est-ce qu'on peut dire que les temps présents, je vous conduis le temps d'un détour au temps présent, est-ce qu'on peut dire que puisqu'on a traité aujourd'hui, on traite la culture essentiellement comme divertissement, la culture comme plaisir personnel du moment qui passe à autre chose, est-ce qu'on a oublié la fonction politique et civilisatrice de la culture dans la cité?
Oui, ça me paraît évident. Effectivement, je crois que ce que demandait Louis XIV aux arts dont il faisait la promotion, c'était d'exprimer l'essence propre de notre peuple, le génie propre de la France et en gros l'âme de la France. Et aujourd'hui, effectivement, soit on demande à la culture, alors je ne dirais pas la culture française, mais la culture qui est en France, d'être un simple divertissement, ou au contraire, on ne lui demande surtout pas d'être l'expression d'une identité française, puisque vous savez comme moi que l'identité, c'est devenu le gros mot absolu. On lui demande au contraire de se fondre dans de grandes valeurs supposément universelles qui sont l'inclusivité, le vivre ensemble, la tolérance, qui sont des valeurs qui n'ont rien de spécifiquement français, et au lieu d'exprimer ce que notre culture devrait avoir de spécifiquement français. On l'a très bien vu, je pense, à travers cette fameuse cérémonie d'ouverture des JO, dont les artisans se sont vantés d'avoir voulu faire l'inverse d'un roman national. Il s'agissait effectivement de déconstruire l'histoire nationale pour inscrire la culture qui est en France dans ce grand courant de valeurs pseudo-universelles.
Et je me permets d'y revenir sur un temps. De quelle manière l'identité française qui s'ancre, prenons au sérieux ce terme, qui vient du fond des âges, comme aurait dit un vieux général, de quelle manière la relation entre Louis XIV et Molière permet-elle de la fixer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une synthèse particulière qui arrive à ce moment dans la définition publique ou généralement admise de ce qu'est la culture française, l'identité française?
Je pense qu'il y a vraiment un basculement avec le règne de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il comprend qu'une culture promu et défendu par l'État, n'a d'intérêt véritablement que si elle est l'expression de l'âme nationale. Et auparavant, et jusqu'à Mazarin inclus, quand on voulait assurer le prestige de la France par les arts, eh ben, on faisait venir des artistes d'Italie.
Vous avez consacré l'ouvrage au Bernin, je crois.
Et voilà, et notamment Louis XIV lui-même, au début de son règne sur l'idée de Colbert, quand il veut finir le Louvre, eh bien, il fait venir d'Italie le plus grand architecte de son temps, qui est le Bernin, et le séjour se passe mal. Il est renvoyé, non pas avec un coup de pied au cul, mais pas loin, et on décide à la place de, finalement, faire travailler des architectes français pour définir un style architectural proprement français. Je pense que cet épisode que j'ai raconté, effectivement, dans un précédent livre, est vraiment un basculement, c'est-à-dire que Louis XIV comprend intuitivement que ça n'a d'intérêt de favoriser une effloraison des arts en France que si cette effloraison des arts témoigne et fait rayonner l'âme française. Et de fait, il va créer dans tous les arts un style français qui va rayonner sur l'Europe pendant près de deux siècles.
Arthur de Vatrigan.
Pour continuer sur le lien entre le XVIIe et aujourd'hui, ou les enseignements qu'on peut tirer, vous revenez sur la querelle de Tartuffe avec les accusations d'impiété, quoi, vous répondez même aux accusations d'impiété de Molière. Quel lien faites-vous avec aujourd'hui entre les qu'on peut appeler les puritains, les libertins aujourd'hui? Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui continue?
Alors, ce qui est très fascinant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de défenseurs de Molière qui sont des progressistes et qui sont généralement athées, rejoignent les dévots d'autrefois en voulant faire absolument de Molière un rebelle et un athée. Molière n'était ni un courtisan servile, ni un rebelle. Il était quand même à la cour du roi tous les matins pour faire son lit, donc ce n'est pas une attitude très, très punk, on va dire. C'est quelqu'un qui a un respect absolu des institutions et de l'ordre établi. Mais pour autant, c'est un artiste complètement libre qui développe son œuvre en toute liberté. Mais il y a cette idée aujourd'hui effectivement très forte que un artiste ne saurait être que en rébellion contre l'ordre établi, ce qui est une idée en plus totalement factice, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui ces artistes pseudo-rebelles sont en réalité très occupés toute la journée à déverser le catéchisme politiquement correct de l'époque. Donc c'est une rébellion qui est purement de pose et de façade.
Alors, revenons sur Molière particulièrement. Alors, on pourrait dire, quand on se penche sur son œuvre, il y a une compréhension particulière de l'âme humaine, ironique, presque ironique plus que tragique, c'est-à-dire la conscience, ou alors le tragique se dévoile dans l'ironie. Est-ce qu'on peut considérer que dans la formation d'un homme politique, de l'homme d'État exceptionnel, est-ce qu'on peut dire que le type de philosophie qu'il rencontre dans les œuvres de sa jeunesse va, d'une manière ou de l'autre, orienter son rapport au gouvernement, sa manière de gouverner les hommes? Est-ce qu'autrement dit, le passage pour Louis XIV par Molière va orienter sa manière de gouverner les Français?
Je pense que l'œuvre de Molière lui sert un peu d'avertissement et de garde-fou. C'est-à-dire que Louis XIV, effectivement, pour restaurer le prestige et l'autorité de l'État, a manifesté tout au long de son règne un souci extrême de grandeur et de ce qu'il appelait sa gloire, qui était en réalité la reconnaissance que les contemporains donnaient à celui qui faisait son devoir avec éclat. Et je pense que Louis XIV était conscient que ce souci de grandeur pouvait basculer à tout moment dans la démesure et qu'il a trouvé, effectivement, dans le théâtre de Molière, une sorte de mise en garde contre les extrêmes, contre le fanatisme, contre la démesure, contre la tentation d'en faire trop. Il y a un éloge du juste milieu constant dans le théâtre de Molière. Il y a un éloge du bon sens qui, je pense, a servi à Louis XIV de garde-fou contre lui-même, contre la tentation de ses propres excès.
Arthur de Vatrigan.
Et inversement, qu'est-ce que a apporté Louis XIV à Molière? Parce que vous dites presque que Molière n'aurait pas été Molière sans Louis XIV.
Il n'aurait pas été tel que nous le connaissons, ouais, en tout cas. Ce que je trouve très frappant, c'est qu'on a toujours cette idée, là aussi très moderne, de l'artiste qui porte en lui une œuvre avec une telle intensité qu'il faut absolument qu'il s'en délivre en la couchant sur le papier. Et Molière, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'écrit, qui ne crée que sous le coup de l'urgence et de la nécessité. Alors, urgence et nécessité, souvent, de remplir les caisses de son théâtre, puisqu'il était avant tout animateur de théâtre, mais aussi urgence et nécessité de répondre aux commandes très pressantes du roi. Et donc, il y a cette pression de Louis XIV sur Molière pour écrire beaucoup, pour écrire sur des formats qui ne lui étaient pas forcément les plus naturels, c'est-à-dire que Louis XIV va beaucoup pousser Molière à hybrider le théâtre avec la musique et donc à privilégier le mode de la comédie-ballet. Et je pense qu'il va le pousser effectivement à une forme artistique beaucoup plus ambitieuse que ce que Molière aurait fait spontanément, même si effectivement c'est un peu de la culture fiction que de l'affirmer.
Alors justement, il y a cette dimension. D'un côté, nous sommes devant un pouvoir souverain sûr de lui, c'est celui de Louis XIV. Et de l'autre côté, il y a chez Molière la critique des mœurs de l'époque. C'est-à-dire la capacité de jeter un œil, je dirais pas moqueur, peut-être ironique, sur ses contemporains. D'un point de vue très, très moderne, il y a presque une contradiction dans cela. C'est-à-dire soit le pouvoir est sûr de lui et il est sérieux, il ne tolère pas l'humour, ou de l'autre côté, on est devant un esprit de dérision qui va jusqu'à abattre le pouvoir et la religion et les fondements de la cité. Pourtant, ce n'est pas ici que ça se présente avec vous.
Non, alors déjà, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que Louis XIV, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est quelqu'un qui a énormément d'humour et qui le manifestait d'ailleurs parfois en faisant des plaisanteries à l'encontre et de ses courtisans. Il y a quelque chose qui me paraît très significatif de la question, de la problématique que vous posez, c'est la question de la flatterie et de la courtisanerie. Flatterie et courtisanerie qui sont moquées à plusieurs reprises dans le théâtre de Molière et notamment dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et on pourrait considérer que c'est une attaque contre la cour et donc une attaque contre Louis XIV. Or, ce qui est très frappant, c'est que Louis XIV, tout en développant ce système de cour, lui-même était très hostile à la flatterie et très hostile à la courtisanerie, dont il avait bien conscience que c'était des dérives qui menaçaient le système et des excès qui menaçaient le système qu'il avait mis en place lui-même. Donc je pense qu'effectivement ça fait partie de ces exemples qui montrent que le théâtre de Molière est pour Louis XIV une sorte de garde-fou contre les dérives auxquelles pourrait entraîner le pouvoir tel que l'a mis en place Louis XIV.
Arthur de Vatrigan.
Si notre époque actuelle était une pièce de Molière, laquelle serait-ce? Et si Emmanuel Macron et Mathieu Bock-Côté étaient des personnages?
Vous avez le droit de ne pas répondre à mon sujet.
Si c'était une pièce, je pense que ce serait évidemment soit Les Précieuses Ridicules, soit Les Femmes Savantes, parce que c'est les deux pièces qui font la critique la plus cinglante et la plus actuelle de l'hypocrisie intellectuelle et du snobisme intellectuel. Je pense que là, on est en plein dedans. Bon, Emmanuel Macron, c'est facile, hein, c'est Tartuffe. Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, je ne sais pas, c'est compliqué.
Excellente réponse, c'est dans les tunes. Alors, mais ça nous dit, transposons-nous pour notre temps. Alors, vous nous présentez un livre comme celui-là. Est-ce que les Français, je me permets de dire le premier des Français aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous l'avez mentionné, dit il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, ce qui est quand même assez étonnant. C'est une déclaration qui remonte à il y a quelques années, mais qui disait quelque chose de la pensée du président. Est-ce que notre époque est capable de comprendre encore une relation comme celle que vous nous présentez entre Molière et Louis XIV? Et est-ce qu'elle est encore capable de recevoir la culture française? C'est une question très politique, finalement. Mmh. Est-ce que la culture française est vécue comme un boulet dont on doit se délivrer? Ou est-ce que notre époque est encore capable de l'accueillir à la manière d'une promesse d'émancipation et avec un devoir de continuité?
Alors, je pense que notre culture est perçue comme un boulet par une bonne partie de nos élites, avec la douce paire de guillemets nécessaires autour de cette expression. Même si, je crois que vous en avez parlé dans la première partie de cette émission, il y a effectivement un certain nombre de gens, y compris dans la classe politique plutôt à droite, qui comprennent qu'on sortira de cette course à la décivilisation qui est actuellement la nôtre que si on accepte de se réinscrire dans un contexte civilisationnel et donc de se réenraciner dans une culture. Pour ce qui est du peuple, je pense qu'effectivement, il est tout à fait disposé à recevoir et à apprécier à nouveau cette culture pour peu qu'on la lui transmette. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance presque abyssale de la culture française, y compris d'ailleurs dans des milieux assez bourgeois et assez aisés et théoriquement assez cultivés parce que la transmission ne s'est pas faite. Mais ce que je trouve très frappant, c'est qu'il y a quand même un attachement très instinctif que l'on peut remarquer, par exemple, dans l'attachement des gens l'émotion des gens quand il y a une menace de destruction d'une église. C'est-à-dire que tout à coup, tout un village, toute une commune se mobilise pour sauver l'église, alors que évidemment 95% des gens ne croient plus ni à Dieu ni à diable. Mais malgré tout, on s'attache à la défense du clocher parce qu'on a conscience que c'est là, symboliquement, que réside notre âme.
Il nous reste environ 2 minutes. Je vous poserai une question encore une fois très contemporaine. Qu'est-ce qu'il y a encore de vivant dans la culture française aujourd'hui de l'œuvre de Molière? C'est-à-dire, évidemment, c'est un titre obligé, c'est une figure, on parle de la langue de Molière, tout le monde connaît cette formule, mais qu'est-ce qu'il y a encore vivant de l'esprit moliéresque, entre guillemets, dans la culture française d'aujourd'hui?
Alors, il y a, je crois, dans l'œuvre de Molière, une forme d'irrévérence qui est très française et qui, je pense, parle beaucoup encore aujourd'hui et assure une bonne partie du succès de Molière. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez admirable, c'est sa capacité à moquer les travers de son temps, tout en leur donnant une dimension intemporelle et universelle. Et notamment, vous voyez ça très bien dans Les Précieuses Ridicules, qui, le phénomène de la préciosité, c'est un phénomène historiquement très daté, mais à travers cela, Molière fait une critique du snobisme qui est absolument de tous les temps, et de la même façon que sa critique de l'hypocrisie dans Tartuffe est de toutes les époques. Et quand vous entendez un personnage de Molière proclamer « Nul n'aura de talent que nous et nos amis », il est évident que ça a des résonances à notre époque qui sont très fortes.
Il me reste le temps d'une dernière question, Arthur de Vatrigan.
Étonnamment, est-ce que le théâtre privé n'est-il pas le dernier lieu de liberté dans la culture française ?
Oui, alors avec ce bémol qu'il est malheureusement de plus en plus soumis à des impératifs économiques compliqués qui font qu'il va vers une forme de simplisme. Et quand il joue de la comédie, par exemple, il a tendance à le tirer vers la grosse farce, mais inversement, le théâtre public, qui devrait être notamment l'occasion de le lieu pour défendre le patrimoine français, a tendance à tirer Molière vers une forme de sinistrose, c'est-à-dire qu'on veut montrer à tout prix que c'est du théâtre qui dit quelque chose, mais pour dire quelque chose, il faudrait surtout ne pas faire rire, ce qui est un contresens absolu. Donc je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui quand même dans le théâtre privé qu'on a les meilleures chances de voir des mises en scène de Molière, notamment qui soient fidèles à l'esprit de ce grand dramaturge.
Merci beaucoup, en tout cas, c'était passionnant. Merci à tous les trois. Cette émission est maintenant terminée. Rideau, comme on dit, puisque on est un peu au théâtre. Sur CNews, maintenant, c'est l'heure des Pro 2. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à la semaine prochaine.
Mathieu. Très certainement, au grand.